sommes entre Loire et Loin, c'est l'heure du magazine du Gâtinais. Comme chaque samedi à 10h sur les ondes douces et bienfaisantes de ces deux ailes. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui se passe dans le Gâtinais? Qui sont les gens beaux et intéressants qui font des choses bien? Ça vous intéresse? Ben, nous aussi. Alors on creuse, on explore, on rencontre, on interview et ça donne cette émission que vous retrouvez chaque samedi à la radio. Et puis c'est en permanence aussi sur les internets en vidéo. Alors abonnez-vous à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube. Commentez, likez, partagez, invitez vos amis entre Loire et Loin. Au sommaire de ce numéro, nous parlerons de l'expo Margerin, qui est visible jusqu'à la fin du mois à la médiathèque de l'Âme. Nous rencontrerons Raphaël Bardas, un auteur de fantasy à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, Le Voyage des âmes cabossées. Il était en dédicace, à la librairie du Hérisson à Montargis la semaine dernière. Nous l'avons rencontré. Nous irons également faire un tour du côté du cinéma Le Vox, à Châteaudenard, un cinéma associatif et créatif où il se passe toujours quelque chose. Nous parlerons fleurs et bouquets avec Maïké, une jeune bouquetière, hein, vous savez pas ce que c'est, et ben on en parle tout à l'heure. Nous parlerons enfin de choses sérieuses, du gin, de la vodka, produit artisanalement dans notre région, du côté de Faronville, à consommer avec modération bien sûr. Mais bon, on va commencer l'émission par se faire une petite douceur pour les tympans. A tout de suite.
Radio.
Nous sommes entre Loire et Loin sur ces deux ailes. Franck Margerin, les anciens abonnés de Métal Hurlant ou de Fluide Glacial s'en souviennent, c'est ce rocker au grand cœur, Lucien, un véritable phénomène dans la bande dessinée des années 80 et qui perdure encore. Et rocker au grand cœur, c'est aussi tout le portrait de ce dessinateur de légende, Franck Margerin, qui était donc à Montargis la semaine dernière pour inaugurer l'exposition qui lui est consacrée jusqu'à la fin du mois à la médiathèque de l'Âme. Hervé Moplot, le directeur des affaires culturelles, nous en parle.
Alors l'expo autour de l'œuvre de Franck Margerin, c'est à la médiathèque de l'Aglo. Ça commence le 4 septembre et c'est tout le mois de septembre. C'est facile puisque c'est à l'extérieur, sur la façade, Donc dans une zone où tout le monde peut accéder, puisqu'ici on ne vous demandera pas le pass sanitaire, si vous ne rentrez pas dans la médiathèque, vous pourrez voir les panneaux de l'expo. Il y a une trentaine de panneaux qui vont retracer l'œuvre de Margerin sur différentes thématiques, comme les Gronets, Lucien, les motards, etc., etc. Voilà. Et donc on a tenu à ce que ça soit dehors, parce qu'on a remarqué, au-delà du fait qu'en ce moment, ça tombe bien à cause des restrictions sanitaires, c'était bien avant, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet qui a été retardé, on a remarqué que les gens avaient du mal à entrer dans des salles d'exposition. Ils ne sont pas forcément légitimes à entrer, ils hésitent, ils jettent un œil. Il passe tout droit. Là, c'est disponible. Chacun fait comme il veut. Personne ne le regarde regarder. Et du coup, on espère que ça sera disponible pour tout le monde. Tous ceux qui ont envie, en tout cas, de découvrir ou de revoir l'œuvre de Margerin. À rencontrer les gens qui le suivent et qui l'apprécient. On voit à quel point il a marqué la vie d'un bon nombre de gens. Et ça, c'est assez marrant quand même. Alors là, aujourd'hui, effectivement, nos amis libraires de Montargis proposent des albums en vente avec des dédicaces. Évidemment, Franck Margerin, malheureusement, ne reste pas le mois complet. On a essayé, hein, mais il n'a pas voulu. Par contre, je pense que les libraires de Montargis continueront d'avoir des albums. N'hésitez pas, si vous êtes branchés et si vous avez l'intention de découvrir ou de redécouvrir le Margerin, il y a des intégrales qui sont assez sympas. Il y a les albums anciennes versions qui existent aussi. Et puis, si vous avez la possibilité d'entrer dans la médiathèque, on a une Harley, puisque sa dernière série s'appelle « Je veux une Harley ». Et on a un certain nombre d'objets qu'un fan de Margerin a réalisé et qui sont sous vitrine au premier étage dans l'espace BD. Donc venez aussi découvrir par l'occasion notre espace BD. Il y a les BD de Margerin, mais il y en a plein d'autres.
Franck Margerin a passé des heures et des heures à dédicacer toute la journée, mais il a quand même pu prendre le temps de faire une petite table ronde avec ses fans, et nous en avons enregistré quelques extraits.
Voilà. Pour rattraper le retard, je vais parler très très vite. Bon Franck, c'est un plaisir de te recevoir, c'est ce que je disais.
Merci Christophe.
Alors on est discuté un peu avec le public de tes débuts. Donc tu démarres vraiment la bande dessinée avec Métal Hurlant.
Oui, mes premiers pas dans la bande dessinée, c'est dans le numéro 6 de Métal Hurlant. J'avais même pas de dessin, enfin de bande dessinée à montrer, j'avais juste quelques dessins à montrer à Dionnet. Mais ça l'a amusé, c'était des personnages à Gronet avec des tas de petites hachures, je faisais tout à la plume à l'époque. Et dans des ambiances un peu, des petites épiceries, des petites illustrations en couleur. Et il me dit, bon, bah écoute, fais-moi une BD, puis je te dirai à ce moment-là si ça m'intéresse ou pas. Et c'était la première BD, c'était Simone et Léon, donc un couple de retraités avec des petits martiens, parce que comme c'était un journal de science-fiction, je me dis bon, la science-fiction c'est forcément les extraterrestres, voilà, donc j'ai rajouté les petits martiens, et puis c'était ma première histoire, 4 pages, j'étais heureux comme tout.
Alors comment naît le personnage de Lucien? Parce qu'au départ t'as pas trop envie de te lancer dans une série avec un héros récurrent.
Oui, ça j'ai voulu faire le malin, comme souvent les jeunes, montrer que j'étais pas comme tout le monde, je dis je vais faire toute une carrière avec à chaque fois des histoires différentes et des personnages différents, des univers différents. En fait, c'était assez compliqué à gérer parce qu'il fallait recommencer à zéro à chaque fois. Et puis quand est arrivé le numéro spécial rock de Metal Hurlant, où il a fallu créer des personnages de rockers, là je me suis attaché à ces personnages parce que la plupart étaient déjà inspirés de copains, donc j'avais le sentiment de savoir de quoi je parlais, parce que je les connaissais tous bien, et de raconter des choses vécues, donc c'était plus facile de chercher dans mes souvenirs que de chercher dans ma tête des idées totalement originales. Et puis de parler du rock, c'est un truc qui m'amusait beaucoup plus que la science-fiction. Donc là, il y a eu vraiment un déclic avec cette histoire, et c'est là où j'ai demandé à Jean-Pierre si ça ne lui posait pas de problème que je revienne avec mes petits rockers dans Metal Hurlant, qui n'était pas un journal spécialement basé sur le rock. Et il m'a dit non, pas de problème. Donc il est aussi les creux, parce que c'est à partir de là que ça a vraiment décollé.
Alors dans la série des Luciens, il y a une période d'interruption, de 8 années je crois.
Oui, j'avais fait Mon Beau le coursier.
Voilà, entre-temps, ouais.
Puis un Sur les Dinos. Mmh. Et oui, donc quand il a fallu reprendre, enfin il n'a pas fallu, disons que j'ai eu envie de reprendre Lucien, je me suis dit si je le reprends tel que je l'ai laissé il y a une dizaine d'années, ou 8 ans exactement, je vais avoir l'impression de régresser, de revenir en arrière, de me répéter. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me plaisait pas, et je me suis dit, bon, si je reprends un nouveau personnage, il faut que je recommence tout. Et puis moi, j'aimais bien Lucien. Je dis, tiens, mais il y a une solution, c'est de le faire vieillir. Donc ça, on garde, c'est le changement dans la continuité, comme on dit en politique. Donc je garde Lucien, que les gens aiment bien, et en le faisant vieillir, je retrouve un nouveau Lucien qui me permet de raconter des choses différentes, l'histoire de lui mettre des enfants dans les pattes, l'histoire de, bah, l'histoire de vieux, quoi. Donc ça m'éclate.
Le public a dû être un peu dérouté, non ? Quelles ont été les premières réactions ?
Écoute, elles ont plutôt été bonnes. Alors certains, effectivement, m'ont dit, c'est pas sympa parce qu'on a l'impression de se voir dans la glace, Lucien qui a pris quelques kilos, etc. Mais finalement, non, ça a été bien reçu. Et vraiment, je me suis éclaté. J'en ai fait 3 albums dans la foulée. Mmh. Et puis après, j'ai refait un break avec Je veux une Harley. Et j'ai envie de reprendre Lucien, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il a 90 ans ?
Eh ouais, c'est ça, jusqu'où tu vas le faire vieillir ?
C'est Lucien l'EHPAD, il y a sûrement des trucs à raconter. Mais non, j'ai pas trop envie de faire ça. J'ai plutôt envie de revenir sur des flashbacks. Lucien, qui est vieux, qui raconte à éventuellement ses enfants, voire ses petits-enfants.
Là, tu bosses sur un nouvel album ?
Non, je bosse pas là.
Alors, il y a pas mal de dessinateurs, de jeunes dessinateurs, là, qui reprennent des séries anciennes. Est-ce que tu as déjà eu des propositions que d'autres dessinateurs s'amusent de tes histoires et reprennent le personnage ?
Non, parce que moi, je suis un peu la vieille école, c'est-à-dire que je pense que mon personnage s'arrêtera avec moi, puisque c'est un peu mon prolongement.
En le faisant vieillir, de toute façon, c'est
vrai qu'il y a déjà, peu de bien parti.
Oui,
je crois que si.
Non, parce qu'ils le font beaucoup sur Spirou et Fantasio, sur.
Oui, mais je pense que.
Sur Corto même, maintenant, là.
Oui, non, mais j'ai rien contre pour eux. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt comme Hergé. Hergé, il voulait que Tintin ne lui survive pas, et je respecte. Bon, il y a des gens qui sont fans de Tintin, mais ils sont fans du Tintin d'Hergé. Si c'est n'importe qui d'autre qui reprend Tintin et que c'est pas aussi bien, c'est un peu. Qui était arrivé avec Uderzo quand Goscinny est mort, il a repris la série. Moi, franchement, je peux le dire maintenant qu'il n'est plus là, parce que j'aime beaucoup Uderzo. Franchement, c'est un type qui est formidable, mais j'ai quand même, je pense qu'il n'est jamais arrivé au niveau de Goscinny.
Alors là, tu as fait l'affiche de Renaud à la Philharmonie. Tu avais bossé sur le disque Éthiopie, c'est ce que je racontais.
Ouais.
Comment ça s'est passé, d'ailleurs, ce disque ?
Bah, en fait, c'est drôle, Renaud m'appelle, parce que bon, il connaissait peut-être pas assez de gens qui dessinaient, donc il me connaissait un peu, donc il m'appelle, il me dit, voilà, tu peux me faire la pochette d'Éthiopie, et il m'envoie un rough dessiné, que j'ai toujours, j'ai un original de Renaud quand même, un dessin d'une bouteille dans la mer. Et moi, je dis, ouais, avec le petit parchemin marqué SOS à l'intérieur, je dis, oui, mais dans la mer, c'est bizarre, parce que l'Éthiopie, il n'y a pas une goutte d'eau, et donc, je trouvais que c'était bizarre de faire une bouteille dans la mer. Donc, je lui ai suggéré de le faire dans une mer de sable. Alors, comme il avait pris le lettrage pour Éthiopie de Tintin, j'ai repris les dunes de Tintin dans le crapaud, pince d'or, voilà, puis j'ai mis la bouteille dans le sable. Donc, il a dit, ouais, c'est une bonne idée. Bah, écoute, merci à tous, en tout cas, d'être venus. Je suis désolé qu'on speed un peu. Et,
merci.
Et
bien, merci à toi, Franck.
Une petite pensée pour ceux qui font la queue depuis déjà 2 heures devant mon stand.
L'exposition Margerin, c'est jusqu'à la fin du mois, à la médiathèque de l'âme. C'est à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas la louper. Et puis, c'est aussi en vidéo, sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, Entre Loire et Loin. Une petite pause, et puis on se retrouve dans un instant pour discuter avec une jeune bouquetière, Maïké. À tout de suite.
J'ai tout ce dont tu as besoin.
Merci d'écouter C2L, nous sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais. Et l'autre jour, lors de nos pérégrinations au festival La Belle Valette à Précigny, dans le village des producteurs et artisans du Gâtinais, notre attention a été attirée par un stand tout fleuri, tout joli, avec une toute jeune femme derrière ses fleurs séchées et ses bouquets, c'était Maïke Van Noort. Elle est bouquetière.
C'était obligé de commencer les interviews, les entretiens avec les participants au village gâtinais de ce La Belle Valette, avec une créature de rêve, une petite fée. Elle s'appelle Maïke Van Noort. Elle est bouquetière. Voilà. Et regardez, bon, alors Pascal passe avec sa caméra tout ce que nous propose Maïke. Moi, je trouve ça d'une fraîcheur, d'une poésie absolue. Maïke, comment tu t'es dirigée dans cette incroyable activité?
Pour tout vous dire, j'étais un peu perdue dans mes études. Et mon papa est agriculteur, il fait des pivoines. Et je me suis dit, pourquoi pas, les fleurs, ça m'intéresse beaucoup. Et pourquoi pas faire cette aventure avec lui? Du coup, on a commencé à faire les marchés vers l'agglomération montargoise. Et après, on a planté des glaïeuls, des fleurs. Et je me suis retrouvée à faire des couronnes en fleurs séchées au festival La Valette pour le plaisir et aussi un peu pour me faire connaître. Voilà.
Et alors, tu disais que tu faisais quoi comme étude et alors, tu as décidé de bifurquer et de faire ton CAP de fleuriste.
Ouais. Voilà. Au départ, je voulais faire une école pour faire pilote de ligne. Sauf qu'à la sortie, j'ai eu mon bac et il fallait avoir 18 ans, chose que je n'avais pas du coup parce que je suis de fin d'année. Du coup, j'ai fait un an de licence d'anglais. Ça m'a pas plu énormément, surtout avec cette période de Covid, c'était pas simple. Et du coup, j'ai arrêté en milieu d'année pour faire les fleurs. Et maintenant, je continue dans cette lancée parce que ça me plaît énormément. Et peut-être plus tard, recontinuer dans l'aviation et voir...
D'accord, donc tu vas faire une formation à Tours, ouais. Mais ce n'est pas dit que tu continueras après les fleurs. C'est pour ton enrichissement personnel.
Voilà, pour l'instant, je pense que je ne suis pas trop pressée. Et c'est surtout qu'il faut avoir un super bon niveau d'anglais. Et j'attends de partir à l'étranger. Et je suis un peu mon instinct et les fleurs, voilà, pour l'instant, c'est mon dada et je veux continuer là-dedans. Quoi.
Donc là, je t'ai vu avec tes pivoines sur le marché de Château-Renard, c'était magnifique. Donc là, c'est les glaïeuls, après ça va être quoi?
Les glaïeuls, en septembre, je vais faire mon alternance, mon CAP en alternance, donc je vais devoir un peu travailler. Mais sinon, on va essayer de planter des tulipes et des anémones. Mais pour ça, on attend de voir un peu. Mais pour l'instant, on a les pivoines et les glaïeuls. Donc, c'est déjà une charge de travail assez lourde, mais voilà.
Parce que tu n'es pas seulement belle derrière ton échoppe à faire des petites couronnes, mais tu es aussi à la production, tu es la main dans la terre, tu coupes tes fleurs le matin, etc.
Par exemple, ce matin, avant de venir, il faut aller dans le champ, couper les glaïeuls qu'ils sont prêts et la journée je suis au festival à faire vos couronnes de fleurs séchées et le soir je reviens pour recouper des fleurs. C'est un petit rituel mais c'est sympa.
Alors voilà, alors en fait Maïke ne sait pas encore où elle va vendre ses couronnes après, parce que moi je lui dis c'est tellement beau, il faut absolument qu'on trouve des endroits où trouver les couronnes de Maïke. En attendant de le savoir, eh bien voilà, ça s'appelle Bloom & Co. Voilà, ça se trouve à Saint-Hilaire-sur-Puiseaux. On va vous mettre les coordonnées sur le petit reportage. Et puis prochainement, à mon avis, dans les boutiques du Montargois qui ont un peu de goût et le sens de la poésie. Voilà, merci Maïke.
Maïke Van Noort, bouquetière, c'est magnifique ce qu'elle fait. Si vous voulez avoir une petite idée, allez voir la vidéo sur notre page Facebook. Profitez-en pour vous abonner, liker, partager, commenter. Hein ? Une petite pause musicale à présent et on se retrouve tout de suite après pour rencontrer Raphaël Bardas qui sort un nouveau livre. À tout de suite.
soledad te enferma el alma. Si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro. Sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz. Sé feliz, sé feliz. Los colores de una mariposa vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que despiertan a la luna y sé feliz. Sé feliz, sé feliz. Si la soledad te enferma el alma.
Prends ton vélo, on part à l'aventure dans le Centre-Val de Loire.
C'est l'heure des échappées à vélo ?
Oui, jusqu'en octobre, la région Centre-Val de Loire t'invite à découvrir 50 parcours jalonnés d'expos, de spectacles, de visites et d'animations. Et en plus, c'est gratuit.
En selle pour un bon bol d'air et de culture.
Retrouve toutes les infos sur échappéavélo.fr.
Nous sommes entre Loire et Loing, et souvenez-vous, au printemps dernier, nous avons reçu un écrivain local, auteur de romans d'aventure et de fantasy, Raphaël Bardas. Vous avez peut-être lu le livre dont il nous parlait à l'époque, Les Chevaliers du Tintamarre. Eh bien, figurez-vous que les personnages truculents de ce premier opus reviennent dans de nouvelles aventures. Le voyage des âmes cabossées. Il était en dédicace à la librairie du Hérisson à Montargis la semaine dernière. Eh bien, il nous en parle.
Oui, alors une suite qui n'est pas... Oui, c'est une suite parce que ça se passe 3 ans plus tard et que... Non, on peut le lire si on n'a pas lu le premier. On peut tout à fait le lire si on n'a pas lu le premier. Maintenant, il y a un certain nombre de choses dans, à l'extérieur de l'intrigue du roman elle-même, mais à l'intérieur de la vie des personnages, qui vont évoluer parce qu'eux existent dans cet univers. 3 ans se sont écoulés, leur vie ont changé. Mais on peut très bien, si on n'a jamais lu Les Chevaliers du Tintamarre ou qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus, ou parce que cette histoire-là ne nous intéresse pas, parce que c'est du polar, parce que... Enfin, c'est un polar fantastique. Non, c'est un univers complètement imaginaire qui est très inspiré par notre Europe du XVIIe siècle, même si ça ne respecte absolument... Aucune vérité historique. C'est très inspiré de notre Europe du XVIIe siècle, en tout cas dans le ton, dans la langue, dans les ambiances, dans les préoccupations aussi des personnages. Voilà. Mais dans le premier, dans Les Chevaliers du Tintamarre, j'ai davantage traité ça sous forme d'intrigue policière. Fantastique, mais policière. Le deuxième est un voyage. Ça va commencer aussi dans la cité de Morgue-Pierre, une cité portuaire battue par les vents et la pluie, où les chevaliers du Tintamarre, on va dire les survivants du premier livre, sont légèrement brouillés, mais vont se rabibocher très rapidement parce qu'il se passe des choses étranges dans la ville. Sauf que là, on ne reste pas à Morgue-Pierre. On va très rapidement monter sur un étrange navire qui s'appelle le navire des âmes cabossées et partir faire un furieux tour du monde. Le premier, on va dire, est une sorte de pastiche de roman policier de KPDP. Et là, on est davantage sur le conte philosophique. davantage sur les contes philosophiques. Ça, c'est plus une forme de fond, mais c'est vraiment un roman d'aventure, de voyage. On va découvrir des peuplades assez farfelues, que j'espère assez innovantes par rapport à ce qu'on propose aussi dans les genres de l'imaginaire. Oui, il y a une quête. Il y a une quête. Ah oui, parce que je vais bouffer dans la gamelle de Cervantes et de Melville. Il y a du Moby Dick, il y a du Don Quichotte. Oui, alors c'est une chose qu'on m'a parfois dite. Moi, avant d'être auteur, avant d'être romancier, j'ai été pendant une vingtaine d'années auteur de jeux de rôle, donc scénariste. Et inventer des univers imaginaires et inventer des histoires que les gens vont jouer autour de leur table, de façon à ne jamais s'ennuyer, que ça tourne rapidement, que chacun à son tour puisse avoir quelque chose à vivre et à raconter. Et je pense que, vu que plusieurs personnes me l'ont dit, c'est sans doute une chose qu'on trouve dans mon écriture, ce côté aussi un peu picaresque de, des fois, c'est complètement... On se demande pourquoi ça a lieu, ça ne trouvera sa cohérence que 50 ou 100 pages plus loin, mais on avance, il se passe des choses, ça rebondit, et on est dans une quête, chacun a quelque chose à découvrir, chaque personnage là, même s'il y a une quête commune, chacun va avoir quelque chose à vivre, sa propre histoire, pour que le côté justement conte philosophique de ce roman prenne toute son épaisseur, toute son ampleur à la fin. Et ça rebondit sans arrêt. Mon principe, c'est un chapitre, une histoire. Il faut que chaque chapitre soit un intérêt narratif, avec un début, un milieu, une fin. Il ne faut pas qu'on arrive à la fin d'un chapitre en disant il ne s'est rien passé. J'ai lu mes 5, 6, 7 pages. Il s'est vraiment passé quelque chose pour les personnages qui étaient au centre là. Donc ça c'est le côté picaresque, mais c'est aussi le côté jeu de rôle. Effectivement, à chaque fois qu'un joueur va avoir son tour de jeu autour de la table, si à la fin de son tour il s'est rien passé, il va dire écoutez les gars, pourquoi je suis là, j'ai quand même amené des bières et des chips, hein, voilà.
Qu'est-ce que j'allais dire, donc le voyage des âmes cabossées, il vient de sortir là fin août, hein. On est là, tu es en dédicace à la librairie du Hérisson. Qui vient, d'une part, où est-ce qu'on va le trouver, est-ce que tu vas refaire des dédicaces ici à droite à gauche, quels sont les prochains rendez-vous, on va dire, et puis qui vient se faire dédicacer, c'est qui le public, ton public c'est qui?
Mon public, c'est les collègues que j'ai forcés à venir. Ma compagne, mes belles-filles, des copains. Non, alors ça c'était vrai quand on a sorti Les Chevaliers du Tintamarre, hein, faut pas oublier que je suis un auteur débutant en tant que romancier, en tout cas, donc très peu connu, et lorsqu'on a fait le lancement des Chevaliers du Tintamarre juste avant le premier confinement en 2020, parce qu'il est sorti une semaine avant, sur place il y avait mes amis, ma famille, enfin voilà, que les proches. Et on a fait une soirée très agréable, mais c'est vrai que personne ne connaissait les Chevaliers du Tintamarre ni Raphaël Bardas. Là, ce soir, il y a eu un peu plus de monde. Il y a toujours les copains, les fidèles, enfin les copains, j'ai envie de dire les amis même, hein, les fidèles qui viennent. Et ben, comme moi, je parle beaucoup d'amitié dans mes romans, je suis très content de voir que ça transpire sur la réalité. Enfin, ça marche dans les deux sens. Je crois que la frontière est poreuse. Et puis, ben, des nouvelles têtes, des gens que je ne connaissais pas, qui sont passés avec soit la curiosité de complètement découvrir, soit qui avaient déjà lu le premier ou commencé à le lire et l'envie d'aller plus loin. Mi-octobre, je serai aux Imaginales à Épinal. Ça fait un petit moment qu'il est repoussé, que le festival est repoussé. Donc c'est un gros festival des littératures de l'imaginaire, duquel j'ai la chance d'être un des invités cette année. Donc je vais aller faire un peu... Voilà, j'avais été... Alors les Chevaliers du Tintamarre a été sélectionné pour le prix des Imaginales. Il a fait partie des cinq ouvrages sélectionnés, mais n'a pas eu le prix. Bah d'ailleurs, Les Chevaliers du Tintamarre a été sélectionné pour 4 prix et les 3 dont on a eu les résultats ont été négatifs. Mais c'est déjà très très beau de... Voilà, comme disait monsieur de Coubertin. Non, mais après, moi, j'écris pas pour des prix, mais c'est sûr que, je vais pas vous mentir, hein, quand on a un prix, on en vend plus. Hein.
Pour des prix, c'est qu'il y a une qualité qui est reconnue. Et cette qualité d'écrivain, d'ailleurs, c'est un truc que tu partages bientôt.
Oui, je vais commencer à animer des ateliers d'écriture à la MJC de Château-Renard dans un premier temps. Et puis, bon, c'est une activité que j'ai envie, moi, de développer. Ça s'adresse. Alors, lycéen, à partir du, ou alors à partir de la troisième, et les adultes, moi, professionnellement, hein, ce qui me fait manger, c'est professeur documentaliste. Je travaille dans un collège. J'anime déjà des ateliers d'écriture avec des collégiens. Là, j'ai envie de sortir de ce contexte-là pour aller travailler avec un public plus mûr et qui aura d'autres ambitions.
L'objet, c'est quoi, du coup ? Ça va être en quoi ça va consister, ces ateliers ?
L'idée, ça va être de travailler, je pense que pendant ces, enfin, en fonction de ce que les gens vont avoir envie de trouver déjà, je vais m'adapter parce que moi des exercices d'atelier d'écriture, j'en ai des banques entières, hein, c'est des choses que je fais depuis des années et que je n'ai pas inventées. Moi ce que j'ai envie de voir là, c'est ce que les gens viennent chercher et à partir de là on va improviser un peu, aller puiser dans les banques d'exercices qu'on a, qui ont déjà fait leurs preuves, et puis ajouter après des choses plus personnelles pour les faire travailler sur le storytelling, pour travailler sur aussi un peu de transmédia, un peu d'écriture collective, avancer, faire travailler différentes techniques d'écriture, faire prendre en main le principe du schéma du récit. Tout est possible, ça va vraiment dépendre des envies des gens, sachant que là, sur ce qu'on prévoit avec la MJC de Château-Renard, à la fin, il y a une édition. Donc les gens vont participer à l'écriture d'un probablement un recueil de nouvelles. Moi, c'est ce sur quoi, en tant qu'éditeur, je serai le plus efficace et le plus qualifié. Donc, on va sans doute travailler sur un recueil de nouvelles avec une impression et puis le mettre en bibliothèque à la fin. Et chaque participant aura son un ou deux exemplaires de ce à quoi il aura participé. Ça, c'est à la MJC de Château-Renard. Et puis après, je suis en contact un peu avec l'AME pour des choses peut-être autour du jeu de rôle ou de l'écriture. Mais là, on a rien convenu, rien signé pour le moment. C'est plus des échanges entre personnes qui s'entendent bien et qui ont envie de faire des choses ensemble.
Et j'aurais une dernière question. Là, tes personnages, est-ce que tu as pensé à une troisième aventure ?
En fait, le problème n'est pas de penser à une troisième aventure. Le problème, c'est de se dire, mais quand est-ce que je m'arrête ? En fait, j'ai commencé d'autres choses, j'écris d'autres choses en ce moment qui me plaisent aussi énormément, mais j'ai une envie assez furieuse de revenir dans l'univers des Chevaliers du Tintamarre. Et puis moi aussi, venant du milieu du jeu de rôle, du monde du jeu de rôle, on me demande régulièrement si je vais en faire un jeu un jour. J'ai envie de dire que j'en ai très envie, mais je suis pas prêt. Donc si je continue, il y aura d'abord une troisième aventure des Chevaliers du Tintamarre et peut-être après un jeu de rôle, mais tout ça n'est pas encore complètement d'actualité.
Le voyage des âmes cabossées, c'est donc le titre du nouveau roman de Raphaël Bardas. Il est dans toutes les bonnes librairies de Montargis et d'ailleurs. Et j'en profite pour vous signaler au passage que la librairie du Hérisson et la librairie des écoles, les deux principales librairies de Montargis, donc, organisent le week-end prochain une sorte de salon littéraire, un salon du livre, où plusieurs auteurs seront présents dans les deux librairies, dont Raphaël Bardas. A priori, donc, vous pourrez vous faire dédicacer ses romans. Donc, direction Château-Renard dans un instant pour aller découvrir ce qui se passe du côté du cinéma Le Vox. A tout de suite.
Nous sommes entre Loire et Loin, merci de nous écouter. C'est le magazine du Gâtinais. Et dans le Gâtinais, il se passe toujours quelque chose. Par exemple, au Vox, à Châteaurnard, où nous sommes allés assister à une soirée consacrée au cinéma de genre, les soirées Vox fera tout, animées par Eric, c'était la semaine dernière. Mais le Vox, c'est plein d'autres choses. Et c'est son directeur, Joël, qui nous en parle.
Bienvenue au Vox, donc le petit cinéma associatif de Château-Renard, 64 places assises. Nous sommes juste avant la soirée spéciale Vox Ferratu et je vais vous parler un petit peu des choses à venir très très bientôt dans notre salle. Donc on a repris notre rythme de croisière, même si on vérifie le pass sanitaire avant les séances, on a une jauge maintenant à nouveau à 100%. On a plein de films super intéressants très bientôt, par exemple Un Triomphe avec Cadmerade qui est sorti tout récemment et qui est un film à ne pas louper. La Terre des Hommes également de Naël Marandin. Et puis on a notre spécialité, c'est les événements. Donc on a quelques événements lors de certaines séances qui vont venir très très bientôt. On va refaire une séance de La Fine Fleur, le film avec Catherine Fraud. Et cette séance sera suivie d'un troc aux plantes. Donc à vos godets, si vous voulez échanger, donner des plantes, des graines. C'est le dimanche 26 septembre, la séance est à 14h30 et le troc aux plantes est à 16h si je me souviens bien. Donc faut pas hésiter, c'est dans la salle et le troc aux plantes, ça sera juste en sortant de la salle. Vous pouvez venir juste pour le troc aux plantes et voilà, il y aura sans doute également un jardinier ou un fleuriste qui viendra pour donner des conseils pour s'occuper de ses rosiers puisque le film La Fine Fleur parle d'une rosière. Donc, faut pas hésiter à venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement? Je regarde mon petit papier. On a Play It Again. C'est une manifestation nationale et qui s'intéresse aux films de patrimoine. Et dans ce cadre-là, nous, on aura In the Mood for Love, le classique de Wong Kar-wai. On aura également L'Homme de Rio, le film formidable de Philippe de Broca avec Belmondo, évidemment. Et puis, on aura un ciné-concert autour des films de Georges Méliès. Donc ça sera la deuxième quinzaine de septembre. Et puis, on aura au mois d'octobre un mois spécial loup, le mois du loup, parce qu'on est à Château-Renard. Donc, comme on a un petit peu l'esprit de contradiction, on s'est dit pourquoi pas faire un mois du loup avec plein de films à la fois pour les grands et pour les petits. Pour les grands, on va avoir par exemple Hurlement de Joe Dante, on va avoir le Loup-garou de Londres, on va avoir plusieurs intervenants qui ont écrit des bouquins ou qui ont travaillé avec des loups, on va avoir un spectacle, des fables de La Fontaine, enfin plein de choses comme ça. C'est Halloween tout le long du mois. Non, pas que Halloween, parce que il y aura des films pour les plus petits, comme Loup tendre et Loup loufoque pour les enfants les plus petits. Et ça, c'est très très chouette. Et puis, c'est déjà pas mal. Hein. On a également aussi, si j'allais oublier, Douce France, qui est un documentaire qu'on va diffuser en partenariat avec le PETR, suivi d'une discussion. Et Douce France s'intéresse à des jeunes gens qui sont lycéens en banlieue parisienne et qui vont faire une enquête suite à un projet de construction d'un centre de loisirs, non, d'une base de loisirs énorme à côté de chez eux et qui risque d'urbaniser des zones agricoles. Donc, ils vont à la rencontre de tous les gens qui sont sur le projet, notamment les agriculteurs. Et donc c'est un film qui s'intéresse à la terre et qui quelque chose qui nous concerne tous quand on vit dans une commune rurale comme Château-Renard. Donc cette séance-là, si je me souviens bien, c'est le vendredi 16 septembre ou 17 septembre. Voilà.
Toutes les infos, on les trouve.
On les trouve sur notre site internet, levox.fr, on les trouve sur notre page Facebook, Ciné, Café, Concert, Vox, et puis on les trouve sur, en nous appelant, en nous laissant un petit message sur notre répondeur 02 18 12 51 98. Et puis on a des petits programmes de cinéma qu'on distribue dans les boulangeries, chez la plupart des commerçants du coin. Voilà, voilà.
Hey, hey. I've seen you cry. You gotta know I wanna be kind.
can keep on alive. I can still myself from mine. I'd rather lose than fight with you. I'm gonna feel so blue. Hey girl, look up in the sky. Shining bright at you now. You've been sick and now you're finally. Why don't we make up all mine? I can keep on doing right. I can still not stop from mine. I'd rather lose than fight with you. I keep on knocking on the neighbor's door. And must have found somebody to get before. Stop the offer on you always hate. Listen, send us all I'm trying to say. I can have you, it's got me confused. But I've been pushing hard if you want me to. Don't be afraid, stop this game. Don't be
Nous sommes toujours entre Loire et Loing et vous êtes toujours là. Quelle patience! Ou alors c'est qu'on réussit à rencontrer des gens intéressants. Dites-le nous sur notre page Facebook. Commentez, partagez et si vous aimez, aidez-nous à promouvoir tous ces talents, toutes ces initiatives dans le Gâtinais. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de nous éloigner un petit peu du Gâtinais pour aller pas très loin dans le Pitivray, à Faronville, où Paul-Henri et Pauline produisent du gin et de la vodka, le tout artisanalement et avec beaucoup d'amour. C'est beau et c'est bon.
Bon, le label Valette, c'est formidable. C'est vraiment l'occasion de rencontrer plein de gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils habitent un petit peu loin. Et par exemple, parmi les producteurs, on peut vous appeler des producteurs, il y a Faronville Vodka avec passion. Alors c'est dingue, on se dit alors bonjour, nous sommes Faronville. Eh bien, pas du tout. Ils habitent dans la Beauce en fait. Il y a, non allez, Paul-Henri et Pauline, ça je ne me trompe pas. Voilà. Et ces deux-là, ils ont créé donc Faronville qui distille du gin et de la vodka et on est en Beauce. Racontez-moi cette histoire. Qui a eu cette idée farfelue?
Je vais laisser la parole au...
Parce que j'ai une idée farfelue.
C'est toi qui as l'idée farfelue.
L'idée farfelue, effectivement, c'est moi qui l'ai eue. Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé les spiritueux, j'ai toujours été attiré par les spiritueux. Et quand j'ai eu l'opportunité de reprendre l'exploitation agricole familiale, je me suis dit, je vais faire des spiritueux comme mes copains qui font du calvados ou du cognac. Et c'est pas parce qu'on est en Beauce qu'on ne va pas le faire. Donc le déclic est venu d'un séjour en Finlande où on a bu des bonnes vodkas, parce que j'avais des a priori sur les vodkas. Pour moi, c'était un alcool qui était sans goût, pas bon, qui était un support alcoolique pour faire des cocktails perfectibles. Et en fait, je suis tombé amoureux de très bonnes eaux de vie, bien distillées, et mon point de vue a changé. Et on s'est dit, tiens, on a une expertise dans la matière première de la pomme de terre, et pourquoi pas réfléchir à créer un alcool local du champ à la bouteille.
Donc, à la base, toi, tu es informaticien, tes parents font de la pomme de terre, tu reprends l'exploitation familiale et tu décides de faire autre chose de la pomme de terre que de la vente.
Alors, je faisais de l'informatique, c'était provisoire, parce que en tant que fils d'agriculteur, j'ai bien senti qu'à 20 ans, la ville, c'était pas trop pour moi et que les écrans, ça commençait à me faire mal aux yeux. Du coup, avec Pauline, on avait quand même décidé de revenir habiter à la campagne, de construire notre famille à la campagne et d'avoir notre vie autour de la vie agricole et rurale, quoi.
Pauline, toi, tu viens du Nord.
Oui, du du Pas-de-Calais.
Du Pas-de-Calais, exactement. Ah oui, oh, je suis désolée, je suis désolée. J'adore cette région, je respecte beaucoup. Et toi aussi, tu viens du monde agricole?
Oui. Ouais, moi j'ai un profil très agricole, je suis fille d'éleveur, donc du Pas-de-Calais. J'ai fait des études agricoles, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés à Lille. Et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans la presse agricole. Et je me suis retrouvée, donc, il y a à peu près 5 ans, à changer de voie pour monter un projet de couple chez nous qui mettait en avant à la fois notre expertise agricole, notre envie de monter un projet familial et puis l'envie de créer quelque chose de, qui avait du sens et enthousiasmant au quotidien à Farmville.
Alors, ce qu'ils nous proposent, c'est de là, c'est quelque chose de moderne, de branché. On parlait tout à l'heure du petit logo. Le lièvre, en fait, il est adorable, ce petit logo, parce que il nous disait que c'était un alambic et c'est eux-mêmes qui l'ont conçu, le petit logo.
Oui, tout à fait. Alors, on a fusionné un lièvre qui est l'animal emblématique de la ferme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez aux alentours de Farmville, vous verrez des petits lapins dans la plaine, mais en fait, ce ne sont pas des lapins, ce sont des lièvres. Donc, c'est comme un lapin, mais un peu plus gros. Et puis ça vit dans la paille et ça vit pas dans la terre. Et on l'a fusionné avec un alambic. Et on l'a stylisé, on a transformé le corps du lièvre en, avec la curcubite, c'est-à-dire la chaudière de l'alambic. On a essayé de dessiner les pattes et les oreilles comme des tuyaux. Et ça a donné le logo, effectivement, de Farmville.
Et le lièvre qu'on retrouve beaucoup plus dessiné sur la bouteille de gin.
Qui est très belle. Qui est très belle, qui est là-bas, monsieur Weber. Vous nous ferez un gros plan, là, c'est magnifique. Et alors, en attendant, au-delà, évidemment, de la forme, il y a, c'est devenu quoi l'entreprise? L'entreprise, elle est née en 2017, c'est ça?
C'est Pauline les chiffres.
Alors, oui, la reprise de l'exploitation agricole du grand-père de Paul-Henri date de 2007. L'idée d'origine, alors elle est bien antérieure à cette date-là, puisque tu m'as toujours parlé de créer quelque chose, en l'occurrence quelque chose qui tournait au niveau autour des spiritueux. Et la première bouteille de vodka Farmville a été vendue au Salon de l'agriculture début 2018.
Et maintenant, il y a combien de personnes qui travaillent sur ces deux produits? Et quel est le produit phare?
Aujourd'hui, on est officiellement deux personnes. Donc, il y a Pauline et moi. Pauline et moi, on fait tout. Après, sur la ferme, il y a deux salariés donc, qui nous aident ponctuellement au moment des coups de bourre, comme l'embouteillage ou la récolte des pommes de terre, évidemment. Mais sur la partie distillation, commerce, embouteillage et autres, on est que tous les deux. Ouais. Événementiel, facturation, tout.
Présence sur les festivals, on fait tout.
Alors, très important. Merci Pauline. Donc, tout à l'heure, tu me racontais Paul-Henri. Comment tu avais rencontré les gens du label Valette?
Alors Seb et Mathieu, effectivement, on les a rencontrés il y a 4 ans. Ils nous ont contactés parce qu'ils cherchaient à travailler avec des acteurs locaux. Donc évidemment, dans un festival, il doit y avoir de l'alcool, c'est obligatoire. Parce qu'on n'a jamais vu un festival qu'avec de l'eau. Et ils voulaient un brasseur et puis un alcool spiritueux qui soit local. Et ils sont tombés sur nous par hasard. Et donc ils ont trouvé ça génial. Et nous, ce qu'ils faisaient, on a trouvé aussi ça génial parce que c'est vrai que quand on est revenu à la campagne, on trouvait qu'il y avait un peu un choc des cultures entre le milieu urbain et la ruralité. Alors effectivement, eux, leur état d'esprit, c'est l'extrême urbain. Nous, on est l'extrême rural. Mais finalement, les deux réunis fait que ça matche bien. Il y a une symbiose et une culture qui se mixe et qui se retrouve. Et
ouais,
du
en
coup,
fait, je pense que le point commun, c'est les initiatives un peu disruptives. On est vraiment ici dans un festival assez atypique, dans un endroit où on ne s'attend pas du tout à ce type de festival ici. Et ce qu'on fait aussi, on se rend bien compte que c'est aussi assez atypique. Des agriculteurs qui travaillent en couple, qui ont 4 enfants, parce que je le passe au passage, parce qu'on est... Ouais, mais bon, ça travaille. Et qui se mettent à faire à monter une ferme distillerie en faisant tout de A à Z, ça, c'est assez atypique et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a très rapidement matché.
Ouais, on est un peu fous tous les deux, que ce soit Pauline et moi, Seb et Matt, et on a eu la chance aussi de naître et d'éclore à un moment aussi où le département avait envie qu'il y ait du renouveau, qu'on sorte uniquement des châteaux de la Loire, et donc c'est vrai que le Loiret est en train de se redynamiser autour de Pithiviers et de Montargis. Il y a des acteurs qui se bougent et ça fait que on est là où on en est quoi.
Alors, gin ou vodka, c'est quoi qui remporte le le match?
Le gin est très très récent. Le gin a été lancé là en juillet, donc c'est encore trop tôt pour le dire. En fait, il y a vraiment, il y a une réelle demande sur le gin. Voilà, c'est ça, ouais. Ça revient, c'est très à la mode. Donc il y a une réelle demande. La vodka, le créneau est plus difficile pour s'installer, mais nous, on a vraiment une corde à notre arc qui est celle du champ à la bouteille. Et donc, c'est beaucoup de boulot à expliquer parce qu'on est revendu aujourd'hui chez les cavistes et les épiceries fines.
Où êtes-vous revendu? Voilà. Deuxième question.
Cavistes, épiceries fines, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les meilleurs, pour nous, les meilleurs intermédiaires qui pourront expliquer et le produit, mais aussi l'histoire du produit et des producteurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on cherchait à être présent en priorité dans ce type d'établissement. Donc, aujourd'hui, la voie est tracée avec beaucoup de boulot derrière, faut pas se le cacher, pour la vodka. La première vodka premium, la vodka Petito. Après, on a lancé en début d'année la vodka vieillie en fût de chêne. Donc, j'espère, le gin va couler tout seul derrière tout le boulot qu'on a déjà fait.
Tout bêtement, c'est quoi la différence entre le gin et la vodka?
Alors, la différence si vous voulez, la vodka, il faut imaginer que c'est une le gin, c'est une réaromatisation avec du genièvre. Il faut travailler sur une base d'alcool neutre qui peut être soit de la vodka, soit un alcool neutre quelconque. Et vous allez faire macérer du genièvre, d'eau de botanique. Donc nous, on a notre propre recette avec de la cardamome, de la coriandre, de la racine d'angélique, du réglisse, surtout des pommes de terre. La particularité pour avoir un gin frais, c'est qu'on rajoute du fenouil. Et on fait infuser à travers des fleurs de pommes de terre qu'on récolte nous-mêmes à la main pendant les 4 jours de floraison de la pomme de terre.
Excusez-moi, mais j'imagine les amoureux à genoux en train de récolter les fleurs de pommes de terre.
Allez voir sur les réseaux sociaux, parce que souvent on me demande est-ce qu'on est sur les réseaux. Et en fait, les réseaux sociaux, sans blague, ça nous aide à montrer, à sortir du produit et à vraiment à montrer tout ce qu'on fait à côté. Donc il y a 3 jours, on arrachait les pommes de terre, on le met sur les réseaux sociaux, parce que ça fait vivre toute l'histoire. Et ça, en fait, ça renforce notre crédibilité finalement auprès des consommateurs.
Et les gens voient que nos journées font 48 heures en fait.
D'ailleurs, on n'est pas couché ça.
Bon, c'est bien un dernier truc là qui me vient, parce que les filles des années 90, elles buvaient de la Zubrovska avec une herbe dedans. Alors, qui sortait du congélateur. Est-ce qu'on va faire la même chose à Faronville? Est-ce que vous allez nous proposer ça un jour?
Alors, type Zubrovska, non, parce que c'est des...
Il n'y a pas de bison, hein, j'en vois pas à l'horizon déjà.
On pourrait mettre, je sais pas, ou un poil de lièvre dedans.
C'est pas bête.
Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on ne s'est pas mis encore sur les vodkas aromatisés. On est vraiment sur les vodkas originels, sur des produits distillés, donc qui sont purs, qui sortis à l'ambic, sont juste réduits à un degré d'alcool consommable, entre 40 et 45 degrés. Mais il n'y a aucun ajout post-distillation. Donc, il n'y a aucun arôme ajouté, ni aucun colorant. Et là, type Zubrovska, par contre, on est sur des vodkas qui sont réaromatisés. Et c'est des vodkas
de grain. En fait, la différence entre les vodkas de grain et les vodkas de pommes de terre, c'est justement le fait que les vodkas de pommes de terre sont naturellement aromatiques. Donc beaucoup plus épaisses, beaucoup plus grasses en bouche et naturellement aromatiques. La Zubrovka, par exemple, c'est une vodka de grain qui a été aromatisée. Et finalement, les gens qui aiment la Zubrovka aiment notre vodka puisqu'ils retrouvent ce côté aromatique et finalement dans un produit qui n'a même pas eu besoin d'une aromatisation supplémentaire.
Bon, on est dans le Montargois. Où est-ce qu'on va les acheter, vos vodkas ou vos gins?
Alors, à l'apérothèque en plein centre de Montargis, la petite épicerie fine effervescence, le pressoir du Gâtinais et puis après, le reste des revendeurs est indiqué sur notre site. www.farenville.com.
On a tout dit, c'est pas beau ça? Regarde comme ils sont beaux. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt chez vous, hein. On viendra chez vous. Voilà, je vous rappelle que tous ces gens beaux et intéressants que vous entendez dans cette émission, vous pouvez les voir en vidéo sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, Entre Loire
et loin. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités. Merci à toute l'équipe, Sandrine, Anita, JB, toute l'équipe de C2L, à toute l'équipe du Festival La Belle Valette et les Vallées Gâtinaises, où nous avons pu rencontrer pas mal de gens intéressants. C'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. Je vous donne rendez-vous samedi à 10h pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une bonne semaine à l'écoute de C2L, bien sûr. Mais...